Radio Kapi.
Radio Kapi, Radio de la Paix, va ouvrir ses journaux de ce soir par la recherche de la paix dans la partie est du pays avec le festival Amani qui a axé ses activités principales de ce samedi sur des plaidoyers et multiples appels à la pacification de cette partie du pays et la jeunesse qui est appelée vraiment à une implication totale. L'actualité, c'est aussi les prochaines élections des gouverneurs dans les provinces à problème avec la session des formations des formateurs des membres des bureaux des réceptions et des traitements des candidatures qui a commencé ce samedi. Nous vous en parlons dans cette édition avec le rapporteur général adjoint de l'ACENI. La quête de la paix lancera aussi question en fin de ce journal avec notre invité Pichu Iribi, chargé de communication de l'équipe de la Task Force dépêchée par le chef de l'État Annie Touri. Avec lui, une sorte de bilan de leur mission depuis un mois dans la zone. Raison de plus de garder la fréquence de Radio Okapi pour en apprendre davantage, fidèles auditeurs et auditrices, bienvenue et bon après-midi à toutes et à tous. Billy Van Lutumba devant ce micro pour la présentation de ce journal. La 8e édition du festival Amani était à son 2e jour ce samedi. Artistes, experts, entrepreneurs, humanitaires, chacun a donné à sa manière les messages de paix sur le site du festival. Invité de cette édition, le groupe Street League Music, SLM, Libende Boys de Beni est parmi les premiers à se produire ce samedi. Son message principal, l'espoir pour la paix à Beni. Rosalie Zawadi a rencontré les membres de ce groupe après leur prestation et nous propose ce reportage. Faire taire les armes sur notre continent demeure un impératif vital. Ces propos sont ceux du président Félix-Antoine Tshisekedi dans son discours de fin de mandat à la tête de l'Union africaine ce samedi à Addis Abeba. Mais, ajoute le chef de l'État congolais, il faut réellement passer de la parole à l'acte. D'autres détails avec Noëlla Luzitu. Et tous ces appels à la paix, c'est pour exactement faire face à ce qui se passe sur terrain, comme cette explosion d'un engin qui a fait 6 blessés ce samedi après-midi au marché Mayangose, près de l'état-major de la police au centre-ville. C'est une jeune fille venue faire des achats au marché de friperie qui aurait marché sur l'engin qui a explosé. Celui-ci aurait été déposé par un inconnu dans un sac communément appelé Kavera. 5 personnes légèrement blessées ont été admises au poste de santé de la police en face, alors qu'une d'entre elles, grièvement blessée, a été acheminée à l'hôpital général. Sa vie n'est pas en danger, souligne un personnel soignant. Face à cet énième incident, la protection civile en ville de Beni invite la population à la prudence. Jean-Paul Kapitula, son coordonnateur, le dit au micro de Guylaine Kassassia.
C'était dans le goût de 14h30, lorsque un engin a explosé. Mais c'est dans un endroit où les femmes vendent des friperies. Il y aurait des blessés. Je rappelle toujours mes frères chaque jour. Lorsqu'il y a un danger comme celui-là, ce n'est pas cet endroit où il faut aller. La curiosité tue. Et encore que lorsqu'il s'agit des explosifs, il faut être plus prudent parce que les terroristes, ils ont besoin du grand nombre. Et donc, nous devons, nous tous, nous ressaisir. Chacun doit regarder bien sa face. Et encore une fois, c'est dire, quand il y a une explosion, comment dois-je me comporter ? La seule façon de se comporter, c'est d'évacuer l'endroit, de laisser tous ceux qui sont spécialistes en matière de s'en occuper. Là où a explosé un engin, l'engin n'a pas des yeux pour dire que celui-ci est venu regarder ses spectateurs. Non.
En rapport avec cette explosion, une équipe de services anti-mines des Nations Unies, UNMAS, s'est rendue sur les lieux pour sécuriser l'endroit en retirant les débris de l'explosif. Le calme est revenu dans ce quartier administratif. Une prise en charge psychologique sur les lieux d'un drame est nécessaire pour éviter les sidérations émotionnelles et d'autres formes graves. C'est ce que propose le neuropsychiatre professeur Dr Ali Ndikendi. La question lui a été posée en raison des nombres de morts signalés au cours de cette semaine en RDC. Il explique aussi que les enfants sont des victimes directes et indirectes et ont besoin d'une prise en charge et d'un suivi régulier pour limiter les impacts négatifs dans leur avenir. Dr Ali Ndikedi est au micro de Flubert Balolaye. Nous parlons à présent élections. La Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé ce samedi 5 février ici à Kinshasa la session de formation des formateurs des membres des bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC pour l'élection des gouverneurs des provinces à problème. Parmi ces provinces figurent entre autres le Bas-Ouélé, le Olomami, l'Ituri et le Kassai central. Paul Moindo, rapporteur général adjoint de la CENI qui a présidé cette cérémonie, appelle tous les candidats à cette formation à mettre à profit leur savoir. C'est pour que cette élection, qui est la première pour le bureau actuel, crédibilise la suite des opérations à venir. Paul Moindo le dit à Paul Matendo. Dans le Grand Équateur, 1453 agents viennent d'être mécanisés au dernier trimestre 2021 et premier trimestre 2022. L'annonce a été faite ce vendredi à Mbandaka par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou s'entretenait ainsi avec les agents de la fonction publique. Mais au terme de sa mission de 3 jours dans la ville, il a aussi procédé au lancement de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, CESAP, et l'immatriculation des nouveaux agents. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Au lendemain de son arrivée mercredi soir à Mbandaka, le vice-premier ministre chargé de la fonction publique a sensibilisé les fonctionnaires sur la Caisse nationale de sécurité des agents publics, CESAP. Après de loyaux services à Jean-Pierre Liaou, l'agent devra passer ses derniers jours à charge de l'État. Ainsi, pendant sa carrière, sa contribution mensuelle sera à hauteur de 9% de son salaire, c'est-à-dire 3% comme retenu sur son salaire et 6% versé à son compte par l'État. Outre le lancement de l'immatriculation de nouveaux agents, le patron de la fonction publique a indiqué que pour l'ensemble du Grand Équateur qui compte 54 divisions, il y a 1453 agents nouvellement mécanisés, ce pour le compte du dernier trimestre 2021 et du premier trimestre 2022. Et au regard du nouveau barème salarial de 2022, le VPM a annoncé que lui passe de 165 à 240 000 francs congolais, tandis que le secrétaire général atteint 390 000 francs congolais applicables au mois d'avril. En prévision enfin de la prochaine conférence des gouverneurs prévue à l'Équateur, ce membre du gouvernement central a invité la population de Mbandaka à la paix et a réservé un accueil digne au chef de l'État qui présidera cette conférence. C'est ce samedi que Jean-Pierre Liaou quitte Mbandaka pour l'Isala dans la Mongala. Mbandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Santé avant de passer à la page internationale. Avec seulement 224 000 personnes vaccinées contre le COVID-19 depuis le 19 avril 2021, la RDC est encore très loin d'atteindre l'objectif fixé de 50 millions de personnes vaccinées d'ici à 2023. C'est pourquoi le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a lancé un appel pathétique à la population afin d'accepter de se faire vacciner. C'était au cours de la conférence de presse qu'il a animée ce samedi à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Le ministre Jean-Jacques Mbungani a par ailleurs précisé qu'actuellement, toutes les 26 provinces du pays sont touchées par la pandémie avec la ville-province Kinshasa comme épicentre. Je vous propose de l'écouter dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali Koko.
Actuellement, toutes les 26 provinces du pays sont touchées par la pandémie avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. Le gouvernement de la République, via l'action du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à travers son programme élargi de vaccination, a reçu différents vaccins, dont Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna et Sinovac, lesquels sont maintenant disponibles dans 15 provinces. L'accessibilité des Congolais à ces vaccins leur permettra de se protéger pour éviter la forme grave de la maladie et de retrouver leur vie pré-pandémie. Ouverte à toute personne âgée de 18 ans et plus, en ce y compris les personnes âgées de 12 ans. Cette vaccination cible plus de 50 millions de personnes d'ici 2023. À ce jour, nous comptons 38 276 personnes vaccinées pour la première dose, ce qui revient à 0,72%, et 224 958 personnes ayant été complètement vaccinées, donc 0,42%. Cet état de fait prouve que nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre.
Le ministre a rappelé qu'en plus de l'observance des règles barrières, la vaccination reste le moyen le plus efficace pour combattre le COVID-19.
Actualité internationale.
La nutrition et la sécurité alimentaire, c'est le thème que les dirigeants africains ont choisi pour la 35e édition de leur assemblée annuelle à Addis Abeba en Éthiopie ce 5 février. Comment sortir l'Afrique de sa dépendance alimentaire alors que le continent possède plus de 60% des terres arables du monde? Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, hôte de l'événement, préconise aux chefs d'État d'utiliser les atouts naturels du continent et développer la production agricole, seul moyen de nourrir la population sans dépendre de l'aide extérieure. Dans son discours d'ouverture, il a appelé à faire entendre la voix de l'Afrique sur la scène mondiale dans les grandes instances internationales. Le tribunal arbitraire du sport de Lausanne réhabilite Issa Hayatou, président d'honneur de la CAF. Ce dernier avait été suspendu par la commission d'éthique de la FIFA pour une durée d'un an de toute activité relative au football. L'instance fêtière du football l'accusait d'avoir violé son devoir de loyauté envers la CAF pour son action dans la signature d'un contrat avec la Lagardère Sport en septembre 2016. Ce contrat garantissait à l'entreprise française la gestion des droits TV et marketing des compétitions organisées par la CAF jusqu'en 2028. Vendredi, le TAS a estimé qu'il n'y avait pas des preuves suffisantes pour établir une violation du code éthique de la FIFA et a décidé de lever cette suspension. L'invité. Bientôt un mois depuis que l'équipe de la Task Force dépêchée par le chef de l'État pour sensibiliser les différents groupes armés et les communautés locales à la paix est à pied d'œuvre dans la province de l'Ituri. Sur place, les animateurs de cette structure, qui sont anciens seigneurs des guerres, fils du terroir, organisent des consultations et sensibilisations sur la cohabitation pacifique. Mais peu de gens connaissent ce que fait réellement cette structure. Quelles sont ses missions? Comment la population accueille-t-elle ces messages? Pour en parler, nous recevons Pichu Iribi, le chargé des communications de cette organisation. Il s'entretient à ce sujet avec Jean-Claude Lokidile.
Pichu Iribi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pourquoi avoir baptisé cette structure Task Force?
Task Force est une appellation abrégée. En réalité, il s'agit de Task Force pour la pacification, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri. Cette Task Force est un cadre de réflexion des enfants, filles et fils de l'Ituri qui se sont mis ensemble aux côtés du gouvernement, à la tête les chefs de l'État, pour participer à la pacification et à la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri.
Et quelles sont les missions assignées à votre équipe par le chef de l'État dans le contexte actuel de l'Ituri qui connaît une crise sécuritaire et humanitaire très grave?
Nous avons reçu un mandat du président de la République pour 7 différentes missions. La première, on ne va pas citer les tout, bien sûr. La première, c'est d'abord prendre langue avec les groupes armés, les sensibiliser à adhérer au processus de paix. De deux, c'est impliquer toutes les organisations socio-culturelles de l'Ituri à ces projets de la pacification de l'Ituri. De trois, c'est aider à ce que les déplacés puissent regagner plutôt leur lieu d'origine. L'organisation de forum qui consiste juste à une grande assemblée de filles et fils de l'Ituri. Cette rencontre peut être internationale aussi parce que nous allons faire en sorte à ce que tout celui qui est Ituri, partout où il est sur la planète, puisse participer justement à l'avènement de la paix en Ituri.
Du moins là où vous êtes passé, à Iga Barrière, à Mabanga, à la centrale, sur le Nyama, pour ne citer que ces milieux, comment ces populations reçoivent vos messages? Quel constat avez-vous fait sur le terrain?
La population entière à l'Ituri reflète l'image de la tristesse. Ce n'est pas seulement à Iga Barrière où nous sommes passés, à Mabanga. Même à Kwandoma, les gens sont victimes. Victimes de la situation grave qui se passe en Ituri. Partout. Évidemment, avec peut-être une expression plus grave, là où nous sommes passés, parce qu'ils ont côtoyé la mort dans l'expression la plus simple possible. On a trouvé des gens qui sont d'abord disposés à participer à l'avènement de la paix. Je ne suis pas ici pour m'apprendre à ceux-là qui revêtent les rôles régaliens de nous donner la paix. Je ne suis pas là pour marteler, soit pour vilipender, mais il y a une certaine faille parce que cet espoir de plus en plus s'effrite et on a cette population désespérée qu'on raconte. Mais dans l'entretemps, au-delà de ce désespoir, nous avons une population qui veut croire à la paix. C'est pourquoi, quel que soit le degré de la douleur, cette population croit à l'avènement de la paix. Donc, je ne peux pas nier la douleur, elle est présente, mais je suis content aussi que cette population ne s'affaisse pas sur le poids de la douleur, mais elle regarde devant, elle fait confiance à la coordination, l'activité des Task Force relève d'une participation collective, ce qui fait que les uns et les autres, tout le monde participe à cet avènement, et cette population est déterminée. Elle veut voir cet avènement de la paix. paix à travers justement le travail qui est en train d'être effectué par la Task Force.
Parmi les nombreux défis, il y a notamment la position radicale des leaders de ces groupes armés qui déjà vous désavouent. Comment comptez-vous vous y prendre?
N'exagérons pas non plus. Nous sommes en processus de négociation, de pourparlers avec le groupe armé. Les uns mettent la barre très haut en professant pratiquement des propos quelque peu déplacés, mais cela ne nous embrale pas. Nous nous focalisons sur notre objectif. Oui, il y en a Codeco qui a dit que non, voilà, allez-y d'abord prêcher la paix ailleurs, là où vous n'étiez pas avant. Nous disons, io, pas de problème, mais dans les prochains jours ici, nous rendons public ce dont nous sommes parlé avec eux. Explique mêmement, ils s'en prennent à nous. Certes, ils ont dit des choses graves sur quelques personnalités, nous ne leur tenons pas rigueur. Pour nous, le plus important, c'est qu'au-delà des penchants que nous pouvons avoir, que nous puissions, nous tous, regarder la souffrance que nous infligeons à nos populations. Est-ce que ça a une raison? Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi 52, 56 tués de manière aussi criminelle ici? Qui peut expliquer pourquoi on a tué une dizaine de gens à Momo là-bas, Makofi, Nyangara, par différents groupes armés? Il n'y a aucune raison qui explique la flambée de la criminalité aujourd'hui en Ituri. Les forces de l'ordre sont là, la task force est ici pour transmettre un message provenant du premier citoyen. Nous leur demandons simplement de croire à cette bonne volonté.
Piturébi, je vous dis merci.
Fidèles auditeurs de Radio Okapi, ça n'est ainsi fini avec cette édition vespérale de journal parlé sur Radio Okapi. Était à la présentation Billy Ivan Lutumba, Noëlla Luzitu nous a aidé à préparer cette édition de journal. Restez branchés sur cette même fréquence pour continuer à vous informer. Et d'autres informations, c'est sur www.radiookapi.net.